dressed up in a hero suit. Et toujours aussi fidèlement, nous nous retrouvons à 14h sur les ondes de Radio Galère pour cette chronique hebdomadaire de Comaguerre, comprendre et agir contre la guerre. Ça n'a jamais été autant d'actualité. On se retrouve toute l'équipe qui est là. Roselyne, bonjour, qui est dans la cabine
bonjour
technique.
Roselyne.
Et Habib qui est là aussi. Bonjour Habib.
Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Et j'allais commencer par faire une chronique électorale. Je vais dire c'est d'un classique et d'un bêta dans la période actuelle. Non, quand même, je vais vous donner un certain angle d'approche. Il s'est passé, la semaine écoulée, deux élections législatives dans deux pays importants, à savoir la Grande-Bretagne et la France, et sur lesquelles ça mérite un commentaire et un commentaire comparatif. Comparatif. Parce que vous avez, si vous avez pris le temps, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a annoncé triomphe des travaillistes. Bon, la triomphe des travaillistes, bon, ça va bien, ils ont triomphé, ils ont une majorité quasiment introuvable, presque 400 sièges, alors que la majorité est à 300 et quelques, 320, ouais, je crois. Ouais. Bon, donc, succès écrasant. Bon, alors, vous notez, vous dites, bon, ils ont gagné, donc les conservateurs sont partis, puis on n'en parle plus, puis vous vaquez à vos occupations. Mais il ne faut pas vaquer à ses occupations si vite, parce que comment ça se fait que ce parti, alors quand on cherche un peu, ce que nous faisons bien entendu, on s'aperçoit que ce parti, par rapport aux élections précédentes législatives, n'a pratiquement pas gagné de voix. Il est à peu près au même niveau, autour de 33% des suffrages exprimés par les électeurs. Alors comment se peut-il qu'on puisse passer d'une minorité à une majorité écrasante avec le même pourcentage des voix ? Donc ça pose un vrai problème de fond, qui est le problème de la représentation politique de l'opinion dans un grand pays. Et donc là, ça amène à aller voir comment fonctionne ce système électoral britannique. Alors il fonctionne sur la base, là aussi, de circonscriptions, comme pour nous les députés, mais avec une particularité exceptionnelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul tour. Il n'y a qu'un seul tour, ça se joue en une seule journée, et que le candidat arrivé en tête devient le député de la circonscription, même s'il a juste une voix de plus que le successeur. Et ça, c'est déjà arrivé pas une voix près, mais qu'il y ait quelques voix d'écart entre un conservateur et un travailliste, et selon celui qui est le premier, il passe et il prend le siège à l'autre. Tout ça va durer 5 ans. Alors, regardez l'effet très très long sur la représentation populaire d'écarts qui sont souvent si faibles. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Scrutin uninominal, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat par circonscription, ça ressemble beaucoup au système français que vous avez vécu ces derniers jours, mais il n'y a qu'un tour. Il n'y a qu'un. Ce qui fait qu'en fait, ça rend très très difficile en Grande-Bretagne l'émergence d'un parti autre que les deux grands. Parce qu'en général, pour avoir 30 et quelques pourcents des voix, il faut être un grand parti bien installé, avec des réseaux, des moyens financiers, etc. Et en fait, c'est très très dur pour un petit parti d'émerger dans ce qui est une espèce de chasse gardée des deux grands. Chasse gardée, depuis alors, c'est un vieux système qui ne bouge pas et qui fait partie, c'est un élément de stabilité de la monarchie constitutionnelle britannique. Et il faut savoir que finalement, il n'y a pas toujours beaucoup d'écart entre les politiques menées par les uns et menées par les autres. Ça, c'est très, très important à avoir en tête. Ce qui s'est passé quand même, c'est que, vu la faiblesse relative, enfin, les travaillistes ont gagné, mais ils n'ont pas gagné de voix au niveau national, il y a eu un certain nombre d'infiltrés qui ont réussi à passer dans certaines circonscriptions bien particulières qu'on connaît, qui sont d'une part des libéraux, là, pour cette fois-ci, il y en a une quarantaine, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que la fois d'avant. Et puis, il est passé 4 trublions, ou un peu plus d'ailleurs. Alors, les trublions, c'est ceux qui arrivent alors sur leur charisme personnel, sur leur connaissance d'une vieille circonscription où ils sont connus depuis des décennies, etc., qui arrivent à surmonter cet obstacle des deux partis majoritaires écrasants. Bon. Ça a été le cas de Jérôme Corbyn. Alors Jérôme Corbyn, je le situe pour les auditeurs, c'est l'ancien leader du Parti travailliste qui a été poussé progressivement à la porte parce qu'il avait cet énorme défaut au vu de la monarchie anglaise et au vu des positions générales de l'impérialisme britannique d'être pro-palestinien. Et ça, ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas dans le royaume britannique parce que il faut se souvenir, il faut se souvenir que c'est le royaume britannique qui a ensuite été relayé par les États-Unis qui a mis au point la colonisation de la Palestine. Ouais. Et donc, en fait, se présenter aujourd'hui encore 100 ans et quelques, presque 110 ans plus tard, comme pro-palestinien, c'est un peu, passez-moi l'expression, cracher dans la soupe. C'est-à-dire, ce qu'a fait l'impérialisme britannique, moi, si je parle comme Jérôme Corbyn, eh bien, je considère que c'était pas bien et que de toute façon, il faut tourner la page. Il faut arrêter que la position du royaume d'Angleterre soit celle-ci. Et donc ça, on l'a puni beaucoup. On l'a puni tellement qu'il a été poussé progressivement par les lobbies sionistes qui sont très, 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 très vigoureux en Grande-Bretagne. Je vous rappelle quand même, on va m'accuser de je ne sais quoi, enfin si je ne sais pas très bien, que c'est quand même le programme de colonisation de la Palestine a été contresigné par un banquier qui s'appelle David Rothschild. Bon, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Je ne suis pas allé le chercher. Hein. Ouais, bon, ouais. Il s'appelle David Rothschild. Bon, et donc le secrétaire d'État, enfin le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Lord Balfour, est allé le chercher et a signé avec lui un papier qui n'a en droit international aucune valeur, disant « vous pourrez installer », alors ce qu'on a appelé publiquement un foyer national juif, c'est-à-dire que vous pourrez installer des colons, ils y sont encore, il y en a de plus en plus, hein, vous pourrez installer des colons, et petit à petit, ce foyer, au détour de l'histoire, on arrivera à le transformer en État. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors regardez.
En utilisant les crimes.
Oui, en plus, avec tous les moyens étaient bons. Tous les moyens étaient bons. Il y avait d'une part l'argent, il y avait la violence criminelle, il y avait des groupes terroristes sionistes qui fonctionnaient sur place. Bon. Alors ils ont mis le temps qu'il fallait, c'est-à-dire ils ont mis de 1917 à 1948, mais en 1948, ils ont affirmé qu'il y avait un État israélien. Et seulement là, ce jour-là, ils se sont assis une bonne fois et très copieusement et très lourdement sur l'Assemblée générale de l'ONU qui avait décidé qu'il y aurait deux États et l'Assemblée générale de l'ONU est restée c'était muette.
Voilà. Et personne n'a empêché la colonisation d'une part fait. Et d'autre part les crimes qu'ils ont commis d'Ari Yassin.
Pour coloniser, voilà, ouais, parce qu'ils ont colonisé de façon extrêmement violente.
Ça, les Anglais,
c'est des gens très très armés, très entraînés, qui s'attaquaient à des paysans qu'ils allaient déloger de leurs terres et dont ils faisaient peur, et quand ils ne faisaient pas assez peur, ils tuaient.
Voilà. Ils les tuaient, ou alors ils sont partis à l'extérieur.
Voilà, ils sont exilés, et donc il est parti dans les premiers mois du gouvernement israélien proclamé officiellement donc par Ben Gurion, il est parti 800 000 Palestiniens qui ont quitté leur terre et leur pays.
C'est ça.
On en est là. Donc, je rappelle ce que c'est que ça. Et donc, aujourd'hui, depuis quelques années déjà, sa position était constante. Quand M. Corbyn se disait, quand même, la Palestine, on l'a maltraitée, il était très mal vu. Parce qu'en fait, il mettait en cause, il critiquait la politique du gouvernement britannique depuis 120 ans. Qui n'a jamais cessé.
Un peu comme Georges Galaoui.
Voilà, aussi. Voilà. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que ce monsieur a été, lui, il a été réélu parce que dans un secteur où il est élu, connu depuis des décennies, etc., où il a eu un support populaire massif, mais autrement, il n'avait aucune chance d'être élu et tout a été fait pour qu'il n'ait plus aucun poids politique national. Alors, il arrive à s'exprimer, mais ça s'arrête là. Bon. Voilà ce que c'est le produit du scrutin uninominal à un tour dans la Grande-Bretagne.
Ouais.
Ça a permis, alors, et je vais jusqu'au bout.
Je voudrais dire
vas-y.
Bernard Genet, franchement, il a un petit peu bien vu la situation, surtout en Angleterre et même en France, où j'étais surpris.
Et oui, bien sûr.
Vous avez vraiment, c'est très bien.
Voilà.
Vous avez vu que le Front National n'aura jamais la...
Voilà, alors on va y revenir.
Voilà, on va revenir.
On va y revenir. On va justement comparer les deux pays.
Les
deux systèmes électoraux. Ben voilà ce premier système électoral qui a déjà porté au pouvoir donc, le nouveau leader du Parti travailliste, dont le nom, j'arrive pas à le prononcer, mais il s'appelle Starmer, enfin un nom comme ça. Donc il arrive, il a une majorité quasiment introuvable, il va faire absolument ce qu'il veut. Il arrive assez très curieusement, sans un soutien populaire très important. Il arrive par défaut, parce que les conservateurs ont déçu. Alors il faut se souvenir que pendant la période où les conservateurs, le dernier mandat des conservateurs n'a pas été très brillant, ils ont été obligés de changer deux fois de Premier ministre. Il y a une Première ministre qui était désastreuse, qui n'était pas au niveau pour ce poste, qui a été obligée de partir au bout de 40 jours. Enfin, ils ont passé des moments difficiles. Et donc effectivement, il était probable qu'ils allaient perdre. D'ailleurs, tous les sondeurs avaient dit de toute façon, les travaillistes gagnent, on n'en parle plus, c'est acquis. Et voilà. Et il n'y a pas eu de manifestation de joie populaire par rapport au triomphe des travaillistes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'une part, ils n'ont pas annoncé grand-chose. C'est-à-dire, ils ont annoncé qu'il y avait des vrais problèmes sociaux auxquels ils allaient s'intéresser. Je parlais du système de santé, du système du logement en Grande-Bretagne. Donc, il y a des vrais problèmes de la vie quotidienne de la majorité des citoyens britanniques. Ils n'ont rien annoncé d'autre. Et si, en politique internationale, puisqu'on parle quand même de politique internationale, ils n'ont rien annoncé, c'est que ce sont des sionistes, mais à 150%. Et donc, là, tout va bien, de ce point de vue-là, tout va bien, mais ils n'ont pas fait campagne là-dessus, de toute façon, ils n'ont pas fait... On le savait, ils étaient du camp des sionistes. Il y a même des circonscriptions qui étaient traditionnellement des circonscriptions qui allaient chez les travaillistes, au Labour, comme on dit là-bas, où des candidats indépendants, je ne parle même pas de Corbyn, se sont présentés pour la défense des Palestiniens et ont gagné. Il y en a quelques-uns, ça veut dire que dans une circonscription, il y a des candidats libres qui se sont présentés contre les travaillistes et qui ont eu donc le premier nombre de voix, donc qui sont élus au Parlement. Il y en a 4 ou 5 dans ce cas-là, sur la base de la défense des droits élémentaires du peuple palestinien. Mais c'est très bien qu'ils y soient. Je salue leurs gestes et je salue les électeurs qui les ont mis là. En fait, ils ne pèseront rien dans la bataille. Ce seront des témoins. Ils pourront parler ici et là et tout. Mais ils ne pourront pas infléchir la politique travailliste, puisqu'il est clair que Monsieur Starmer et Madame Starmer elle-même sont deux sionistes acharnés. Que les choses soient claires. Je ne dis pas ça pour dire du mal de lui. C'est reconnu, il l'a dit, elle l'a dit, etc. Bon, donc il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Bon. Donc on a ce système qui amène donc un triomphe d'un candidat hyper sioniste, un des plus sionistes qui est eu à la tête du Royaume-Uni. C'est clair, et qui dit, enfin il ne l'a pas dit, ça n'a même pas été dit dans la campagne, ça a été dit par les opposants, ça a été dit par Corbyn, et ça a été dit par les jeunes qui se sont présentés sur la base de la défense du peuple palestinien. Mais lui, il n'en a pas parlé, parce que de toute façon, il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a toujours dit, il est sioniste, et il le reste jusqu'au bout des ongles. Donc il ne changera pas de ce point de vue-là, et personne, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, ne lui demandera de changer d'avis.
Excuse-moi,
vas-y.
Vous m'entendez ?
Tout à fait.
Oui. Par rapport à la politique internationale, moi je lis qu'il soutient l'Ukraine.
Ah tout, oui, alors je ne suis pas allé jusqu'à l'Ukraine.
Et qu'il veut se rapprocher de l'Union européenne.
Voilà.
Ouais, c'est sûr.
Alors je ne suis pas... L'Ukraine, oui. Je vais y venir.
D'accord.
Oui, l'Ukraine. Non, mais tu as raison. Ouais. Donc en fait, aucune surprise, aucun changement, je veux dire. Aucun changement, puisque...
Sauf que le Premier ministre...
Voilà, c'est plus le même, c'est une autre tête. Alors je dis un mot pour rire. Monsieur Rishi Sunak, qui était Premier ministre, a donné sa démission de leader du Parti conservateur, et il va retourner à son travail. Vous savez qui était M. Sunak ? C'était un des principaux milliardaires britanniques.
Oui.
Donc il va retrouver son bureau de milliardaire.
Ah oui,
il a fait un petit intérim, là. Il a été ubérisé comme Premier ministre. Voilà. Et maintenant, il va retourner à ses affaires, gérer des placements ici et là. Il va rester un des principaux milliardaires du Royaume-Uni. Alors, je le dis parce que, en fait, j'essayais d'imaginer s'il arrivait la même chose en France. S'il arrivait à la tête de l'hôtel Matignon, un milliardaire. Je pense qu'il y aurait des grincements. Hein. En Grande-Bretagne, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout. Il n'a pas été attaqué comme milliardaire. Il a été attaqué pour les conservateurs, on ne les veut plus, on prend les travaillistes, on n'en parle plus. Mais les travaillistes, cette équipe-là, n'a rien contre les milliardaires non plus. Hein. Simplement, il en parle moins. Monsieur le nouveau Premier ministre n'est pas lui-même milliardaire. Il était avocat, les affaires vont bien, mais pas plus. Bon. Voilà pour la Grande-Bretagne. Donc retenez bien, ce scrutin uninominal à un tour produit des effets totalement déformants de la réalité de l'opinion publique. Hein ? Même nombre de voix, 400 députés d'un côté, 100 de l'autre. Hein ? Bon,
qu'un tour, quoi.
Oui, il y a un tour. Alors c'est extrême, puisqu'en fait, il y a une déformation maximale du corps électoral.
Ouais.
Arrivons à la France. Alors là, on est toujours sur le scrutin uninominal par circonscription, avec un découpage assez compliqué et qui est retouché toujours pour profiter aux intérêts dominants. Alors je ne vais pas m'apesantir sur la question du découpage des circonscriptions électorales, mais c'est un travail à la limite de fourmi extrêmement minutieux,
ouais.
Consistant d'année en année, de vote en vote, à retracer le périmètre d'une circonscription pour passer un bureau qui vote trop à gauche dans une circonscription qui vote bien à droite pour noyer les voix de gauche. Enfin, c'est une une cuisine, c'est même une cuisine professionnelle. Il y a dans les grands partis, il y en avait chez les gaullistes, il y en a chez les socialistes, qui consiste à effectivement à retoucher dans le sens des intérêts du parti, pour avoir le maximum d'élus. Et donc, vous pouvez, voilà. Donc ça, mais c'est vieux comme la cinquième, mais ça a même commencé sous la quatrième. Bon, donc ce travail-là étant fait, vous arrivez, alors si vous avez la curiosité de regarder, vous avez peut-être fait ça ces jours-ci, regardez le périmètre des circonscriptions, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça sort? Eh bien, ça sort de calcul pour avoir des résultats tels qu'on veut, c'est-à-dire pour aussi déformer l'opinion. Vous n'avez pas une circonscription qui correspond à une ville ou à une commune, ça n'existe pas. Parce qu'on va mélanger les quartiers pauvres d'une commune avec une autre commune qui est pauvre. Ben là, ils auront, on ne le dit plus maintenant, mais là, ils auront un élu communiste. Hein, mais nous, on sera tranquille dans notre commune riche. Hein. C'était ça, le calcul. Bon. Qui a toujours fonctionné. Hein. Alors, il y a des pros qui connaissent ça à bureau de vote près. Ce n'est pas pour rien qu'on affiche les résultats.
Les inscriptions des électeurs, comment ils font?
Une fois que le découpage est fait, l'électeur va là où le découpage l'a amené à être. Donc vous pouvez effectivement, pendant 30 ans, avoir toujours habité au même endroit et avoir changé de circonscription. Ouais. Et donc voter pour un autre député. Voilà. Bon. Et ça fait... Alors ça, c'est la partie... Alors il y a la cuisine interne britannique que j'ai expliquée et la cuisine française qui est d'un autre type. C'est plus élaboré, plus finaux, mais ça... quand même à produire un certain résultat à un certain moment. Voilà. Mais la grande différence, c'est le deuxième tour. Ouais. C'est le deuxième tour, puisque d'une part, pour arriver au deuxième tour, quand on a été candidat au premier, il faut avoir eu suffisamment de voix. Là, la barre est fixée à 12,5, elle pourrait être plus, mais enfin, il faut avoir ça. Et ne reste, en principe, on l'a vu donc dimanche dernier, qu'un certain nombre de candidats, dans la plupart des cas, il n'en restait plus que deux. Quelquefois, il y en a eu trois, et je crois qu'il y a un cas de quadrangulaire qu'on a... Bon, mais c'est tout. Et donc, en fait, on aboutit très classiquement et très majoritairement à un affrontement à deux pour le deuxième tour. Ce qui fait que là, il y en a, si on est à deux, il y en a un qui a plus de 50 et l'autre moins de 50. Quel que soit le nombre de participants, même si le nombre de participants a bougé entre les deux tours. Bon, ça, c'est connaissant parfaitement bien, parce que c'est des gens qui ont du métier politique... ce système, c'est pour ça qu'ils ont décidé le soir du premier tour de se regrouper pour faire le nouveau Front populaire. Parce qu'ils savaient que les quatre qui étaient là autour de la table savaient que ceux d'entre eux qui émergeraient pour le deuxième tour, alors ici ça aurait pu être un socialiste, là un LFI, etc., mais de toute façon, avaient presque aucune chance d'arriver au deuxième, de gagner le siège. Et donc, il ne pouvait y avoir qu'un regroupement pour arriver à passer la barre des 50% en concentrant toutes les voix, qu'elles soient socialistes, communistes, insoumises et autres, pour arriver à passer au-dessus de la barre des 50%. Ce calcul était juste, il a été fait par des gens qui connaissaient le système et qui en connaissaient toutes les choses trappes et toutes les difficultés. Ils ont fait ça très vite et ils ont eu raison de le faire puisque finalement le calcul a réussi. Ça. D'où la constitution de l'Assemblée nationale telle qu'on la voit depuis dimanche soir ou depuis hier matin. Bon. Il restait deux choses sur lesquelles aussi ils sont intervenus très directement dès le lundi soir, c'est de dire que faisons-nous quand l'un des nôtres n'est plus éligible, c'est-à-dire il a été battu, il n'a pas eu 12,5%, ou il est troisième, il est très très loin et tout. Et là la position a été claire et formelle en disant nous nous retirerons devant n'importe quel candidat, pourvu que ce ne soit pas le candidat du Rassemblement national. C'est ce qu'on appelle, classiquement, la discipline républicaine.
Bon. C'est le Front populaire qui...
Voilà. Et donc, la discipline républicaine, d'après ce qu'on a vu dans les décryptages, les dépouillements des relations, a été parfaitement observée, c'est-à-dire qu'un électeur qui avait voté pour le nouveau Front populaire au premier tour, qui n'avait plus de candidat de son choix, votait nécessairement... Et ça s'est fait, ça s'est vérifié, la discipline républicaine a fonctionné, voté nécessairement par le candidat de droite qui restait, puisque c'était la droite, contre le candidat du Rassemblement national. Ce qui a fait que, et j'ai une pensée émue pour eux, il y a des électeurs de la France insoumise ou du Parti communiste qui ont été obligés de voter d'armes à main. Mais ils l'ont fait, ou d'autres qui ont voté Elisabeth Borne. C'est-à-dire des gens qui étaient à l'Assemblée au début de l'année et qui avaient voté, qui avaient participé aux manifestations contre la réforme des retraites, bon, se sont mis un énorme pince-nez et ont dit, mais quand même, malgré tout, l'important, c'est de sauter l'obstacle, d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Je vais voter Elisabeth Borne. Bon, je ne sais pas si vous avez été confronté à des situations pareilles. C'était des moments difficiles, mais c'était la condition du succès, il fallait dire.
Et pourtant, on a manifesté contre...
Voilà, exactement. C'était une position claire. On ne veut pas qu'il soit majoritaire, et donc tant pis, on va envoyer Darmanin à l'Assemblée nationale, il y est. On va envoyer Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, elle y est, mais on n'a pas les autres. Parce que les autres, c'était l'inconnu sur beaucoup de sujets. Bon, tout ça était parfaitement clair. Normalement, ce qui aurait dû se faire, et qui ne s'est pas fait totalement, c'est que cette perfusion donc des voix de gauche dans les voix du centre ou de la droite aurait dû avoir son symétrique dans une perfusion des voix de la droite vers la gauche.
Ce n'est pas le cas.
Voilà. C'était ça, le jeu. Bon. Ouais. Manifestement, et c'est clair et c'est bien vu, manifestement, cette perfusion n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu un petit peu, mais elle n'a pas été systématique. C'est-à-dire que la discipline républicaine, à droite, ça les gênait un petit peu. D'ailleurs, on l'a su dès le premier soir du premier tour, hein, quand des gens comme Édouard Philippe ont dit « Oui, bien sûr, mais enfin, pas n'importe lequel, pas ci, pas ça. » Alors, et sous-entendu, plutôt un socialiste qu'un insoumis, etc., ils commençaient à faire le ménage, leur tri.
En plus de ça, ils ont diabolisé Mélenchon.
En plus, voilà, c'était ça le tri, hein, principalement, c'était ça.
C'est vraiment, c'est vrai.
Et donc, alors, la riposte, ça a marché dans certains endroits, de la part du Nouveau Front Populaire, de mettre celui qui restait dans un endroit où la droite allait normalement se reporter sur lui, et puis les autres, ils n'ont pas réussi leur coup. Hein. On a un cas sur Marseille dont on a parlé, c'est clair. Bon, donc en fait, non-symétrie. La discipline républicaine, ça marche à gauche, ça a été suivi, ça a produit des effets. La discipline républicaine, ça n'a pas fonctionné complètement, je ne dis pas que ça n'a pas fonctionné. Ça a été partiel, ça a été calculé, ça a été... Est-ce qu'il y a eu des arrangements de coulisses en disant « lui on l'aide pas », etc. Il y a dû avoir. Je pense que les élus locaux de droite ont dû faire leur petite tambouille aussi là au milieu. Le résultat est là. Le résultat est là, c'est-à-dire que, de fait, la droite a plus de voix en additionnant ensemble le rassemblement de tous les macroniens de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel macronien et les républicains, a plus de voix que n'en avaient eu les macroniens, largement plus. C'est-à-dire que les macroniens, sur la base des suffrages du premier tour, auraient dû être ratatinés. En fait, ils ont été sauvés par le non-respect de la perfusion de gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, pardon. Voilà le résultat. Et donc, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que tout système de représentation déforme le suffrage universel. Ce n'est pas une image réelle. Et il faut savoir, par exemple, que si on avait voté à l'anglaise la semaine dernière, le Rassemblement national avait 300 députés.
Ah oui.
Le premier. C'était fini, on n'en parlait plus.
C'était plié. C'est ce que j'allais te dire.
C'était plié. Bon, ça, on a évité ça, et ça a été bien, bien joué de la part du Nouveau Front Populaire. Il a réussi à éviter ça, et il avait bien compris qu'autrement, il risquait de disparaître. Bon. Ça c'est fait. Cette étape-là est franchie. Ça mène à des réflexions. Alors, je lis beaucoup de commentaires ici et là. Alors, un certain nombre de commentaires à l'étranger qui ne connaissent pas cette mécanique subtile et qui disent « la gauche a gagné, la gauche est au pouvoir ». Ben, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. On va avoir ça dans les semaines qui viennent. On va avoir ça dans les semaines qui viennent. Il y a eu ce premier succès d'éviter l'arrivée au pouvoir de gens qu'on connaît mal, qui avancent masqués et qui auraient continué à avancer masqués. Et donc, on aurait changé le jeune homme là, qu'on avait mis en avant. Bon, apparemment, il est usé. Ils vont en trouver un autre. Et on aurait remis le pouvoir aux vrais durs à cuire qui sont derrière tout ça et qui, eux, peuvent être méchants et dangereux. Bon, ça, on n'y est pas. Tant mieux. Bon. Après, alors, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ces systèmes déformants. Alors, la réponse classique, et en fait, elle n'est pas très satisfaisante au point de vue de l'expérience historique, c'est la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale, vous dites qu'il y a autant de listes que de partis, hein, il peut y en avoir beaucoup, et donc, il y a un parti qui a eu 10% des voix, il a 10% des élus, à peu près. Bon. Ça amène, en général, alors puisque tous les partis ont une chance d'avoir des élus, à une espèce de kaléidoscope, de mosaïque, où on ne sait pas trop comment trouver une majorité. Alors, imaginez par exemple, parce qu'on a eu ça au moment des élections pour le Parlement européen. Il y avait 38 listes en France. Alors, il y en a qui n'ont pas eu d'élus. Mais il y a eu beaucoup de listes, petites listes, qui ont eu des élus. Mais ouais. C'est pas. Alors, au Parlement européen, c'est pas grave, puisque le Parlement européen, enfin, je dis pas, il sert à rien, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, c'est pas grave. Mais dans une assemblée où, selon le mouvement de 2-3 personnes d'un petit parti qui passe de droite à gauche ou de gauche à droite, on fait tomber le gouvernement tous les 3 mois, c'est pas très, très pratique. Enfin, ça fonctionne pas bien. C'est d'ailleurs comme ça, il faut le rappeler, que le système de proportionnel intégral fonctionne en Israël. Il fonctionne en Israël. Mais vous savez, on en parle à l'occasion à propos de Netanyahou ou de ses prédécesseurs, il suffit d'avoir 61 sièges à la Knesset pour être le Premier ministre, en ramassant de quoi avoir 61 personnes. Alors, on peut les ramasser un peu à droite, un peu à gauche. Lui, il a ramassé le plus à droite possible, qui n'était jamais arrivé au pouvoir, mais pour arriver à son chiffre magique de 61, qui est la majorité au-dessus de 60, puisqu'ils sont 120 à la Knesset. Bon. Alors, c'est un système qui est joli du point de vue des principes. On dit là, on a un cliché fidèle du vote de la population. Après, on a, au niveau du fonctionnement de l'État, on a quelque chose qui n'est pas très commode à gérer, qui peut être potentiellement instable. Et en fait, ce qui tient le système israélien, c'est le fait qu'ils sont d'accord sur un point, c'est qu'il ne faut pas que les Palestiniens aient le pouvoir. Et donc, à part ça, il peut y avoir des nuances. Il y a même un parti communiste israélien qui a des élus à la Knesset. Mais tout ce qu'il peut dire sur les Palestiniens, il peut le dire pendant 50 ans, ça ne fera rien changer, puisque de toute façon, la très large majorité des autres est contre l'autonomie, contre l'indépendance.
C'est des Arabes palestiniens, je crois.
Oui, mais de toute façon, ils font partie du spectacle de la démocratie israélienne. Regardez, il y a un communiste israélien. Oui, mais de toute façon, il perd son temps. Alors, je n'incrimine pas le personnage, il est respectable, il a courage de dire un certain nombre de choses à la tribune de la Knesset, mais de toute façon, ça ne fera jamais rien. Hein. Ouais. La seule chose qui changerait, ce serait si effectivement les Palestiniens avaient le droit de vote. Ah là, on serait autour de 50-50 et les choses commenceraient à changer. Mais évidemment, les Palestiniens n'ont pas le droit de vote, vous le savez tous.
Ouais.
Donc voilà une petite réflexion. Là, je fais du droit constitutionnel, mais ça méritait d'être dit. Donc il n'y a pas de système idéal. Et après, pour arriver à avoir quand même un gouvernement un peu stable, un parlement un peu stable, eh bien, on trouve des astuces. Et jamais, finalement, la représentation est fidèle à l'électorat national. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vous dis, si à l'anglaise, le Rassemblement national était majoritaire à l'Assemblée nationale, on n'en parlait plus.
Bernard,
oui.
Si, par exemple, l'ensemble,
oui.
Je crois qu'ils ont 89 ou un truc comme ça,
oh, plus que ça.
Oui, plus que ça. Hein. Et puis, le Front National, qui a aussi... Est-ce qu'en assemblant ça, Macron peut gouverner et...
Alors, à mon avis, non. Alors,
Parce qu'ils en parlent actuellement.
Oui, non. Ouais. Alors, effectivement, c'est une idée. En fait, il y a une autre idée qui est beaucoup plus simple et qui a beaucoup plus de chances de fonctionner, puisqu'on en parle. Je vais faire des hypothèses devant vous. En fait, il y a un bloc au centre avec, ensemble, les macroniens au sens large, avec tous les ralliés, Modem, UDI, etc. Et puis, les républicains qui ont sauvé la mise. J'insiste bien, ils sont presque 50. Et en fait...
Oui.
Plus, oui. Et donc, en fait, Macron n'a pas besoin du Rassemblement national. Il va les laisser là où ils sont. Il va les laisser, pour la majorité de leurs élus, à leur incompétence. Car il faut bien voir ça aussi, c'est que n'importe qui, sous l'étiquette Rassemblement national, pouvait être élu avec une formation politique nulle, avec une incapacité même à tenir des fonctions officielles. Bon. Alors, je ne dis pas pour les enfoncer, mais ils le savaient, puisque de toute façon, on ne votait que sur leur étiquette. Il y a des gens qui ne sont jamais venus dans leur circonscription. L'élu Rassemblement national d'Arles, il habite Montreuil, il est parlementaire européen, il ne vient pas à Arles, ses électeurs ne le connaissent pas. Mais sur l'étiquette, il a été élu. Il a battu quelqu'un de gauche qui est sur place. Bon. Donc c'est ça qui est, à mon avis, c'est ça que Macron veut éviter, c'est-à-dire de s'encombrer de cet objet qui est là, qui sert électoralement parlant, qui lui sert électoralement, mais pas pour gouverner. Et donc, en fait, si vous comptez les nombres, en fait, l'alliance possible contre laquelle la gauche va devoir se positionner, c'est une alliance ensemble, les Républicains. Et là, il y a une majorité relative qui est suffisante pour gouverner, parce que de toute façon, si cette majorité relative prend des décisions, vote des lois, et qu'elle a l'opposition de la gauche... Je pense à l'aggravation de l'âge, je vais mettre au pire, aggravation de l'âge de départ à la retraite. Bon, la gauche s'opposera, mais comme le Rassemblement national restera silencieux, puisqu'il est d'accord pour ça, effectivement, la mesure sera votée. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. À la limite, donc en fait, ce bloc a la possibilité de gouverner puisque c'est que les deux oppositions, donc le Front populaire et le Rassemblement national, ne voteront jamais ensemble. Alors c'est vrai que sur le papier, vous pouvez faire de l'arithmétique, vous amuser. Imaginons que les deux groupes, donc Rassemblement national et Front de gauche, votent ensemble. C'est eux qui sont majoritaires.
Ah oui, ils ont la majorité absolue.
Mais ils ne seront jamais d'accord. Donc effectivement, cette hypothèse est à écarter, elle n'est pas réelle. Ça n'aura pas lieu. Ou alors, je ne sais pas dans quelles circonstances elle pourra avoir lieu, mais il faudrait que les uns et les autres soient débordés par leurs troupes. Enfin, il faudrait une situation politique qui n'est pas celle dans laquelle nous sommes. Donc ça n'aura pas lieu. Donc le plus probable et la tendance relativement confortable pour Macron, c'est que Macron, dont la popularité est une des plus faibles des chefs d'État du monde, peut encore gouverner avec cette majorité relative, puisque de toute façon, les deux blocs des deux côtés ne travailleront pas ensemble et ne feront pas alliance pour le faire tomber. Je ne sais pas, c'est ce qui va se passer. Alors, la gauche a raison de dire « on a été élu sur un programme, on veut que ce programme soit appliqué », mais il faut bien voir que si jamais un gouvernement de gauche était proposé, donc vous savez qu'il y a une proposition, et c'est l'Élysée qui dit « ok, j'accepte la proposition », il faut vous présenter devant l'Assemblée nationale pour défendre votre programme. Vous arrivez avec vos 190 voix du Front populaire devant l'Assemblée nationale, et tous les autres votent contre. Vous ne passez pas, le gouvernement n'est pas élu. Hein, et la droite se réjouira bien de montrer qu'elle tient les cordons du Parlement, hein, que ce n'est pas le Rassemblement. Donc, alors, Roselyne fait des gestes de désespoir. C'est ça la réalité parlementaire. C'est compliqué à parler.
Oui.
Mais il faut bien regarder les choses en face. Hein, c'est-à-dire que ne croyons pas que du fait qu'il y a eu ce progrès de la gauche que je salue et qui était méritoire et qui était indispensable dans la situation historique que nous avons vécue et traversée, ça ne veut pas dire que les idées de gauche sont majoritaires. Ça veut d'autant moins dire que regardons quand même les chiffres au niveau du vote national sur l'ensemble de la population française. Le Front de gauche, le Front populaire, n'est pas majoritaire dans la population. C'est ça la donnée aussi. C'est-à-dire il est autour de 30 et quelques pourcents. Hein. Il n'est pas majoritaire dans la population. Alors, ça, on serait en Grande-Bretagne, j'ai 30%, j'ai tous les sièges. Bon, on n'en est pas là. Donc, on en est à une position forte, c'est-à-dire un sursaut politique et une unité politique qui est louable et qu'il faut soigner. Parce que si jamais cette unité politique qui s'est fabriquée de façon extrêmement intelligente et rapide le lendemain du premier tour ne tenait pas, hein, effectivement, la droite, Macron serait à nouveau aux affaires. Hein. Il est encore président de la République, mais il serait maître du jeu. Il ne l'est pas pour l'instant, dès l'instant où il y a ce bloc de 190 députés qui ne votera pas n'importe quoi et qui a effectivement, comme ils le disent, un programme. Voilà ce qui méritait d'être dit en introduction pour bien comprendre la situation. Donc, pas de rêve. Hein. Le moment difficile est passé. Hein. Maintenant, l'adversaire, qui est Macron et tous les gens qu'il y a derrière et tous les intérêts matériels, financiers, militaires qu'il y a derrière sont encore là. Macron reste chef des armées tant qu'il sera à l'Élysée. Ça reste très, très important.
C'est lui qui doit désigner le Premier ministre.
Alors, c'est lui qui appelle un Premier ministre. Il regarde. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est en train, comme il a jusqu'au 18 juillet, il est en train d'observer parce qu'il y a évidemment et nécessairement des contacts entre les uns et les autres. Savoir si, effectivement, l'hypothèse bloc centriste que je vous ai décrite ou l'hypothèse d'une alliance entre la gauche et la droite pourrait fonctionner, ça doit discuter. Mais il faut bien se rendre compte que dans les gens de la droite, il y en a beaucoup qui ne veulent pas du tout de l'augmentation du SMIC. Et il y en a beaucoup qui sont très très contents du fait que la retraite soit à 64 ans, parce qu'ils l'ont voté. Hein. Donc c'est pas si simple. Alors il faudrait trouver à gratter dans la droite, c'est une épreuve, passer de 190 à 280, c'est-à-dire dévoyer, j'allais dire, faire pencher vers la gauche 80 élus de droite ou macroniens.
En ce qui concerne la retraite à 64
ans, ou 60.
60, c'est ça. Mais le Front National a appelé quand même, il a parlé de la retraite. Oui, Est-ce que ces voix du Front National vont être...
Jamais. Ils voteront jamais
ils
pour la gauche.
Jamais pour ils la gauche.
Non, parce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit dans les derniers moments de la campagne. Mais tous les textes qu'ils ont votés au Parlement, puisqu'ils étaient au Parlement moins nombreux, mais ils y étaient, vont dans l'autre sens. Ils n'ont voté aucune mesure sociale. Donc là, c'était... Voilà. Ils ont joué un peu à l'attrape-voix. Je prends des voix sur la gauche en disant que je vais faire tout ça. Et il n'était évidemment pas prêt à le faire.
Bon. Donc, mais si on regarde les électeurs, le Front National, il a moins que le Front Populaire. Hein.
Ah oui, au deuxième tour.
Oui, au deuxième
au
tour.
Deuxième tour.
Attends, c'est...
Non, il a moins
d'élus.
Le
Front National,
il a moins d'élus.
Moins d'élus. Il y a 2 millions et demi d'électeurs qui ont voté pour le Front National, alors que les autres, c'est 10 millions.
Mmh.
C'est pour ça que c'est... Oui. Non. J'ai vu ça. Ah ouais,
Non. L'Assemblée nationale a eu plusieurs millions de voix, plus 9 millions de voix. Au deuxième tour, y compris au deuxième tour. Ils avaient des candidats partout.
Oui, ça, oui, je le sais, mais ils avaient moins. À la fin, au deuxième tour, ils avaient moins.
À la fin, un peu moins de voix. En fait, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, leur position, c'était des positions attrape-voix de dernière heure. Ils étaient prêts à dire n'importe quoi pour faire plaisir à des électeurs populaires. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça pouvait pas fonctionner.
Tu vois ?
C'est parce que... Alors c'est parce que Habib est en train de me montrer. Oui, mais c'est pas 2 millions, c'est quelques... Oui, il y a quelques millions d'écart.
Oui, il y a quelques millions d'écart oui. quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Non, mais
ils n'ont pas...
Non, mais le Rassemblement national n'a pas disparu de la circulation.
Non.
Voilà, ouais. C'est ça, la preuve. Hein, 140 députés.
C'est vrai.
Voilà.
Oui, mais enfin, ils avaient prévu beaucoup plus que ça.
Ah, hein. Ben, c'est pour ça que j'insistais. Un système à l'anglaise les mettait majoritaires, les doigts dans le nez, semaine plus tôt. Bon, donc voilà, on a évité ça.
Et d'ailleurs, tu m'as bien dit qu'ils n'auront jamais la majorité absolue. Tu me l'as dit. Au premier tour, tu
oui,
me l'as
je
dit.
Oui, je l'ai dit. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un parti qui est là pour... stériliser l'opposition. Ouais. C'est-à-dire faire croire à des gens qu'on ne s'occupe pas d'eux, et des fois c'est vrai qu'on ne s'occupe pas d'eux, et dire votez pour nous, nous on arrangera
nous,
on tout a... ça.
Exactement.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout leur problème. C'est un parti attrape-voix, attrape-misère, j'allais dire, des gens qui sont malheureux, qui ne savent pas pourquoi, et qui vont finir par voter, parce qu'on leur dit oui, on vous a compris. Mais c'est pas
les
bon,
électeurs français, moi je trouve qu'ils avaient vu la supercherie.
Ben, suffisamment, disons.
Franchement,
non, mais il y en a suffisamment,
surpris,
mais il y en a quand même 7 millions qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, oui. Mais ça, c'est une analyse personnelle. Ouais, c'est un parti dont la fonction est de compliquer le système et même de stériliser. Il y a une partie de l'électorat français qui est stérilisée, qui ne fait rien. Ils n'ont rien fait pendant les 5 ans, les 4 ans de Macron, là, depuis 2022. Ils n'ont rien fait. Ils ont compté les points. Ils ne prennent pas la parole. À Strasbourg, ils font pareil. Simplement, c'est un parti qui s'enrichit. Alors, c'est un parti. Qui dans le parti s'enrichit ? Je ne sais pas. Mais à 7500 euros par mois à Strasbourg, un peu moins à Paris, etc., quand vous avez 80 députés d'un côté et 140 de l'autre, vous êtes sur un tas d'or politique. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Et au profit de qui ? C'est une vraie question pour la démocratie française, hein, ce parti qui est là et qui est stérile, de fait. Bon. Ça, c'est pas moi qui donnerai la réponse, mais elle mérite réflexion, parce que ça fait quand même, depuis que Jean-Marie Le Pen a fondé ce parti, ça dure depuis longtemps, cette comédie, on ne les veut pas, et de toute façon, c'est des électeurs qui sont perdus, qui ne sont pas dans le jeu de la démocratie républicaine.
Je pense que c'est la crise économique.
Alors, ça a été aggravé par la crise économique. Alors, on va en parler, puisqu'effectivement, de toute façon, derrière toutes les mesures qu'on peut souhaiter qui seraient prises sur des options de gauche, il va y avoir, et c'est déjà annoncé très clairement, aussi bien à Marseille que par M. Bruno Le Maire, attention, les caisses sont vides. Donc, vous pouvez annoncer n'importe quoi, il n'y aura pas de financement. On voit très bien la menace. Alors, elle n'est pas dénuée de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, la France a atteint, merci M. Macron, un niveau d'endettement extrêmement élevé. Et l'Europe, telle qu'elle fonctionne, et dont on nous dit tellement de bien, et la Banque Centrale Européenne, peut étrangler la République française.
Française, hein, oui.
Hein. Et ça pourrait être, par exemple, une madame qui s'appelle Madame Christine Lagarde, qui étranglerait la République française si la République française était trop à gauche. Hein. Cette citoyenne française d'un type un peu particulier. N'oublions jamais ça. L'Europe, elle est là, elle attend, elle compte les points, et à un moment, elle dira « Attention, là, c'est moi qui commande ». Je vous signale qu'il y a quand même des pactes de stabilité, il y a des règles dans l'Europe. Alors, tant qu'on est dans l'Europe, il faut vivre avec. Et je suis un peu critique par rapport à un certain nombre d'élus de la gauche nouvelle qui font comme s'ils ne savaient pas. Ils le savent, hein, mais ils font comme s'ils allaient pouvoir dépasser ça. Ce n'est pas très facile de dépasser ça, parce que quand effectivement vous êtes en déficit, je pense, vous savez que le déficit de l'État qui a été voté par le Parlement au mois de décembre 2023 est de 100 milliards d'euros dès le premier jour, dès le 1er janvier 2024. 100 milliards sur 300, c'est beaucoup. Et pour trouver ces 100 milliards, eh ben, il faut un peu faire le bourgeois de Calais, aller voir un banquier en disant « Est-ce que tu me les avances ?» Et le banquier peut dire ah, « Attends, condition que tu sois sage, petit. » Il faut être sage, petit. Hein. Et donc, si tu es sage et si tu ne fais pas la retraite à 58 ans, ce qui serait un scandale monstrueux et mondial, hein, moi, je te fais des crédits à des pots, à des taux relativement. Mais si tu fais une bêtise, je monte les taux.
Ah oui. Hein.
Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature des marchés, la dictature des banques. Hein. Et selon que vous empruntez à 2% ou à 4%, vous augmentez encore beaucoup plus le déficit à 4%. On a tout ça qui est derrière. Alors, je pense pas, j'ai aucun doute sur le fait que les élus du Nouveau Front Populaire savent tout ça.
Oui.
Ils le mettent pas en avant pour dire il faut qu'on avance, on a une poussée populaire pour avancer dans le social et tout. C'est bien, mais il faut que nous sachions, nous qui les soutenons de tout notre poids de simples citoyens, que la route est difficile. La route est longue et difficile. C'est ça qu'il faut que nous ayons en tête dans les semaines qui viennent. Elle est d'autant plus difficile qu'elle va, et je voulais aborder cet autre point, elle va devenir difficile en matière de politique étrangère. Parce qu'on a, alors, la politique étrangère, on l'a déjà dit au début de cette campagne pour les européennes et pour les législatives, ça n'a pas compté, même pour le Parlement européen, ça n'a pas beaucoup compté, et pour les législatives, ça n'a pas compté du tout, à peine. Enfin, c'était un paragraphe dans les programmes, mais ça ne pesait pas lourd et ça ne faisait pas partie des débats. Les débats, ils étaient sur le social, sur le SMIC, la retraite et tout. Bon. Et donc là-dessus, effectivement, il ne faut pas croire que la politique étrangère est restée stationnaire pendant le temps où nous pensions autre chose, hein, où les électeurs pensaient autre chose. Ce qui s'est passé, et la révélation est venue hier dans un article du journal Le Monde. Hier, le lendemain du vote, donc pendant 3 semaines, on ne parle pas du tout de politique étrangère, si à part du fait que la France insoumise est pour les Palestiniens, que c'est inacceptable, que c'est de l'antisémitisme. Toutes ces sottises-là, on les a entendues, mais ça n'allait pas plus loin. Hein. Ça n'allait pas plus loin. Là, on est dans les choses sérieuses, dans le papier, le très long papier que sort Le Monde hier, le lendemain du vote, au moment où tout est joué au niveau de l'élection. Et donc, on se met à reparler de politique internationale. Alors c'est un article qui a été travaillé, puisqu'il a été fait par plusieurs correspondants du Monde dans différents pays. Un correspondant à Varsovie, une correspondante à Malmö en Suède, deux autres à Bruxelles, un autre encore à Malmö, dans différents pays d'Europe. Et ils sont allés aux nouvelles pour savoir ce qui allait se passer dans l'OTAN, qui, je le rappelle, à la fin de cette semaine, tient un sommet. Il y a un sommet de l'OTAN. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Et qu'ils ont découvert, c'est que les préparatifs de l'Europe pour faire la guerre à la Russie étaient en cours et bien avancés. Mais ça, on ne vous l'a pas dit la semaine dernière. Personne ne vous l'a dit. Et ça, ça fait partie de notre destin à nous, citoyens français. Et pas que les citoyens français, ça fait partie du destin des citoyens européens. Et cette guerre de l'Europe, je dis bien de l'Europe contre la Russie, est une guerre qui est faite à la demande des États-Unis parce qu'eux ne la feront pas. J'insiste là-dessus. C'est bien ça la réalité. Donc ils vont nous envoyer, comme chair à canon, éventuellement, sur le terrain ukrainien pour dire on va. Alors, ils disent pas qu'on va attaquer la Russie. Ils disent c'est la Russie qui nous attaque, on va être obligé de nous défendre. Et en fait, vous pouvez chercher dans toutes les déclarations des aides en Russie, et puis les Russes ne sont pas complètement fous. De quoi ? Alors de quoi s'encombrer d'énerver comme les Lettons, les Polonais, les uns et les autres, alors qu'ils ont un immense pays qui est en train de beaucoup progresser économiquement, qui a d'énormes ressources, qui travaille avec tous les pays voisins plutôt de l'autre côté, du côté de l'Est. Donc la Chine, l'Inde, puisque le Premier ministre indien est aujourd'hui à Moscou, les républiques d'Asie centrale, l'Iran, etc. Donc pourquoi ils iraient rentrer dans la pétaudière européenne ? Pourquoi faire ? Pour s'embêter. Bon, alors, ils laissent les Européens faire le travail que les États-Unis leur demandent, et puis ça, tout ça se fera aux frais des contribuables européens. Vous avez bien compris ça. Alors, j'insiste là-dessus, parce que ça, c'est la position des différents pays de l'OTAN, de l'Europe. Et j'allais vous donner quelques précisions sur ce qui est prévu pour la France. Alors, je vous lis ce qui est... Voilà, il y a un paragraphe dans ce long argument qui s'appelle « La France mobilisée ». Après avoir longtemps hésité à s'engager à l'Est, notamment à cause de l'ampleur de ses effectifs mobilisés au Sahel, jusqu'en novembre 2022, dans le cadre de l'opération Barkhane, environ 5000 soldats, la France fait finalement partie des pays les plus mobilisés le long de la frontière avec la Russie. Et bien entendu. Donc on dit, bravo les Africains, ils les ont poussés dehors, mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ouais, voilà le travail. Bon. Ensuite, présente en Estonie depuis 2017, avec environ 300 soldats, certes c'est modeste, dans le cadre d'une mission baptisée Lynx, elle est aussi désormais particulièrement investie en Roumanie, avec une mission dénommée Aigle, ouais, où la militarisation est la plus forte et la plus rapide depuis 2022.
Ouais.
Le bataillon OTAN, piloté par la France, compte 1500 soldats, dont 400 belges et luxembourgeois, auxquels devrait s'ajouter un détachement de 250 militaires espagnols à l'automne. Voilà, voilà la France. Et donc ça, c'est sur le budget de la défense nationale de la République française que ça se fait. Et quand on est en Roumanie, on n'est pas très très loin de la, vous le savez, pas très très loin de l'Ukraine.
Là, on trouve de l'argent pour financer.
Exactement. Ouais. L'ensemble de ces militaires sont aujourd'hui regroupés à Sincou, au cœur des Carpates roumaines, 2 ans après leur premier déploiement. Ils vivent encore dans un gigantesque chantier, en constante évolution. Ici, chars et blindés partagent le terrain avec les pelleteuses et les camions, à pied d'œuvre pour réaliser les aménagements indispensables. Début juin, plusieurs zones étaient encore tout juste terrassées dans l'attente de la construction de bases de vie, de hangars, de zones de stockage ou encore d'ateliers de réparation, avec l'objectif d'accueillir jusqu'à 2000 soldats d'ici la fin de l'année. En Roumanie, j'insiste là-dessus, parce que ça fait partie du résultat des excès de zèle de M. Emmanuel Macron, la France a obtenu le statut de nation cadre, c'est-à-dire un rôle de coordination des opérations pour l'ensemble des alliés, confié par l'OTAN aux principales armées du continent. Les Britanniques ont ce rôle en Estonie, les Allemands en Lituanie, les Américains en Pologne, une responsabilité importante pour Paris, alors que la Roumanie partage avec la Moldavie une frontière très exposée aux secousses du conflit en Ukraine. Vu de Bucarest, la Moldavie, qui n'est pas membre de l'OTAN, fait d'ailleurs figure de dernier rempart face à l'expansionnisme de la Russie, alors qu'un nombre indéterminé de soldats russes est installé en Transnistrie, une enclave séparatiste frontière de l'Ukraine. Mmh. Moscou continue de faire pression sur la République de Moldavie, y compris par un chantage énergétique et un travail de désinformation. Voilà. Alors, retenez bien ça. Donc, la France est puissamment impliquée, elle a un des rôles centraux, hein, on a cité là, l'Allemagne joue un rôle important, la Grande-Bretagne joue un rôle important, les États-Unis ont pris la main sur la Pologne, bon, ça c'est leur ami, on connaît, et la France est un maillon essentiel du dispositif, alors non pas d'attaque de la Russie, mais de prévenir une attaque de la Russie sur nous. Mais qui serait assez stupide, qui serait assez stupide pour dire que la Russie veut attaquer la France? Personne, personne. Alors ça va très très loin, puisque je me suis arrêté à une réponse de l'ambassadeur de Russie à la rédaction en chef du Point. Le Point, cet hebdomadaire qui est pas très à gauche. Et il se trouve que un des rédacteurs du Point a fait la semaine dernière un éditorial en disant qu'il fallait donner la bombe atomique à l'Ukraine. Il fallait donner la bombe atomique à l'Ukraine. Voilà. Alors ça veut dire, hein, on a tellement peur des Russes que s'il y a le risque qu'il y ait une bombe atomique utilisée, donc on ressort ce vieux diable de sa boîte, c'est-à-dire, ah, ouais. La bombe atomique. Alors la Russie a répondu, l'ambassadeur de Russie en France a fait un petit courrier en disant, on vous signale que s'il y a une guerre nucléaire, on meurt tous, vous n'avez pas compris, mettez-vous ça dans le crâne. Bon, donc on ne la fera pas, nous on ne peut pas la faire, on veut simplement qu'on nous laisse tranquille, c'est tout. Hein. Mais les épouvantails servent à épouvanter. Je veux dire, hein.
C'est bon, ça.
Hein. Mais il faut savoir quand même qu'un grand hebdomadaire, c'est un grand hebdomadaire, Le Point dans la presse française, se met à écrire un article en disant « Il faut donner la bombe atomique à l'Ukraine ». C'est exactement ce que Zelensky souhaite pour faire peur. Et donc on est en train de rentrer dans ces jeux-là dangereux parce que Le Point, bon, c'est pas le gouvernement, c'est pas Macron, c'est pas le Premier ministre, mais Le Point, ça a beaucoup d'écoute dans les milieux de droite, bancaires, etc.
Surtout
donc s'ils se mettent à dire ça, c'est qu'effectivement l'idée circule et c'est une idée qui ravit Zelensky. Donc on est en train de soutenir Zelensky dans ses plus pires aspects, là où il est le plus dangereux, c'est-à-dire délirant à proprement parler, au moment même où il n'a plus aucun pouvoir. Il n'est rien, Zelensky. Il n'est que ce que nous avons voulu en faire.
Ouais,
voilà, il n'est plus rien, il n'est plus président de la République. Aujourd'hui, c'est le président du Parlement qui devrait exercer le pouvoir. Donc il n'est plus rien. Mais si on le met en avant en disant « on va donner la bombe atomique », effectivement, on joue un jeu extrêmement dangereux. Et il faut savoir quand même que, on le sait depuis Tchernobyl, qu'un nuage radioactif, ça se promène. Hein. Donc ça ne sera pas quelque part là-bas, entre Kiev et Moscou, que ça stagnera les nuages. Ça bougera, il y a du vent. Hein. Bon, on le sait. Bien. Tout ceci n'étant pas très réjouissant, mais ça méritait quand même d'être dit. Je voulais évoquer quelques points importants. On finira sur une musique cubaine pour faire le point sur une tentative nouvelle de déstabilisation de Cuba, c'est-à-dire que les services secrets cubains ont arrêté des jeunes gens venus de Miami ou de Floride quelque part, qui arrivaient pour préparer des noyaux qui commettraient des attentats dans la population cubaine, tueraient des gens, feraient monter la température. Bon. Donc les services secrets cubains les ont identifiés, les ont arrêtés, les services secrets cubains sont formés, connaissent la musique, mais ça veut dire que jamais les États-Unis n'arrêtent, ils tentent toujours leur chance. C'est ça qui est important à savoir. Autre chose que je voulais souligner, qui méritait d'être dit, c'est le nouveau président iranien.
C'est ce que j'allais te dire.
Voilà.
Le nouveau président iranien.
Il est sorti des urnes iraniennes, alors dans un système de présélection, puisque c'est le guide suprême qui sélectionne, mais il est sorti un monsieur qui est un monsieur très expérimenté, qui a été longtemps parlementaire, c'est un cardiologue de profession,
oui.
qui a fait partie des équipes qui ont négocié l'accord avec les États-Unis sur la question nucléaire. Donc c'est un monsieur qui connaît très très bien les rapports concrets entre les États-Unis et l'Iran. Bon. Et donc c'est un monsieur qui apparemment a une attitude assez ouverte par rapport à la société iranienne et sera sans doute moins restrictif que pouvait l'être.
Il est conservateur mais ouvert.
Voilà. Sera moins restrictif que n'était Raïssi dans ça. Parce qu'il faut savoir que Raïssi, je le dis maintenant au paix à son âme, mais quand on lui a dit « attention, les communistes sont dangereux », le lendemain même, il les ramassait, il les passé à la mitraillette. Donc il était un peu radical dans ses actes. Hein. C'est pas le cas du nouveau président iranien. Donc on verra. Je voulais simplement dire qu'il y a un changement de ce côté-là. Le deuxième changement important, et je fais un énorme clin d'œil à Habib, c'est que il y a une évolution très rapide de la position de Erdogan, membre de l'OTAN quand même, par rapport au conflit syrien, c'est-à-dire que les négociations vont commencer, sans doute avec une entremise irakienne dans l'affaire, mais pour mettre un terme au conflit en Syrie et pour permettre surtout à la Syrie de récupérer la souveraineté sur son territoire et de récupérer tous les habitants, des millions qui sont à l'extérieur de son pays dans des tentes. Ces millions que la Turquie n'a jamais laissé revenir chez eux. Bon, il semble
que. Oui, Erdogan a insisté par l'intermédiaire de Poutine, par l'intermédiaire de la Russie, d'inviter Bachar
en Turquie.
Ou même, il a dit, si c'est à Damas, Erdogan, il a dit, j'irai à Damas.
Voilà. Donc là, on a
maintenant, Bachar a répondu, vous quittez les territoires occupés, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème.
Avez, voilà. Mais voilà. Il a raison. Tant que vous avez des troupes chez moi, je ne parle pas avec vous. Vous êtes une puissance occupante. Rentrez chez vous. Voilà. Ils sont alors juste dans le coin nord-ouest, hein, autour d'Idlib. Hein. Rentrez chez vous. Chez vous. Et à ce moment-là, nous sommes deux pays égaux, souverains, et on parle entre souverains. Mais on n'en est pas tout à fait là. Mais
il y a une souplesse.
Une souplesse qui n'existait pas, et c'est tant mieux. Deuxième petite chose, quand même, sur le 7 octobre 2023 en Palestine, enfin en Israël. Alors ça se confirme, on savait déjà un petit peu fuité, qu'effectivement il y a bien eu une tentative d'éliminer tous les gens qui avaient été faits prisonniers par le commando palestinien, hein, mais qui a raté. C'est-à-dire la consigne a été donnée, hein, ça s'appelle dans le vocabulaire militaire israélien l'opération Hannibal. Une fois qu'ils ont su que dans les endroits où ils sont allés, les militants palestiniens, ils ont ramassé un certain nombre de gens, dont des officiers ou des soldats, la consigne était de dire « on abat tout le monde, il faut qu'aucun prisonnier ne revienne vivant à Gaza, pour qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques. Bon, » ça a raté. Donc effectivement, il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers qui, je le dis, je ne détaille pas aujourd'hui, ne sont pas des otages. Un otage en droit international, c'est un civil qui est pris à partie dans un conflit entre deux États. Ce que n'est pas le conflit entre l'Israël et la Palestine. Ce n'est pas un conflit entre deux États. Ce n'est pas un conflit entre deux armées constituées officielles. Un otage, c'est un civil qui a été pris pour faire pression sur l'autre État avec lequel on est en guerre. Aujourd'hui, Israël n'est pas en guerre avec la Palestine, qui n'existe pas sur le papier. Donc en fait, le terme d'otage est un abus de droit. Mais c'est très joli parce que ça fait frémir dans les chaumières quand on dit c'est des otages. Ça n'existe. Il n'y a que des prisonniers. Bon, il y en a des deux côtés. Dernière chose sur laquelle je voulais rapidement m'arrêter.
La frontière libanaise...
Voilà, alors ça bouge.
Oui, la frontière libanaise, le nord d'Israël est occupé par Hezbollah.
Ah oui, oui, de toute façon, les colons sont partis. Les colons sont partis. Donc ils ont replié d'une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du territoire.
Et ça posera des problèmes.
Voilà. Bon, la décolonisation, ça passera par des moments de ce type-là, évidemment. Dernière chose, je crois que j'y suis presque. Dernière chose, je vais vous parler d'un petit article qui est paru, mais qui est très très intéressant. Donc, voilà, sur le 7 octobre, il est clair, donc, parce que ça avait filtré, il est très clair que donc, ça ne s'est pas passé du tout comme l'armée israélienne le voulait. Alors après, on nous a dit à l'époque que les services de renseignement savaient tout, ils savaient peut-être tout, mais en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait de prisonniers. Donc, quitte à tuer des soldats israéliens qui auraient été dans des camions des Palestiniens, on tue tout le monde, comme ça, il n'y a aucun témoin de ce qui s'est passé. Donc, comme il n'y a aucun témoin, on peut raconter n'importe quoi. Bon, ça, c'est plus possible, ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi, puisqu'il y a des survivants des deux côtés, palestiniens et israéliens. Et donc, ils parleront un jour ou l'autre. Et on ne peut pas étouffer cette parole. Ça, c'est très, très important pour la suite des événements. Dernière attaque que je vais mener, ça va être contre la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, l'air de rien, alors, qui promet toujours que peut-être elle prendra des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre Galant, et qui ne les prend pas. Alors on dit, et puis ça avance pas du tout. Par contre, là où c'est avancé, c'est que la Cour pénale internationale s'est permis de lancer des mandats d'arrêt. C'est pas des demandes de mandats. Ils ont lancé deux mandats d'arrêt contre M. Sergueï Shoigu, ex-ministre de la Défense russe, aujourd'hui devenu secrétaire du Conseil national de sécurité russe, et contre M. Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe. Ils ont lancé, et là, les mandats d'arrêt sont lancés. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'est lancé... Alors, tenez-vous bien. C'est ahurissant. Sur la base de documents qui ont été fournis au procureur, M. Karim Khan, ce citoyen britannique, je le souligne, parce que ça a de l'importance en l'occurrence, par le ministère de la Justice ukrainien. Et il a suffi que le ministère de la Justice ukrainien lui dise « Oh, ces messieurs-là ont fait des tas d'horreurs, etc. Ils sont coupables, mandat d'arrêt. » Et dans la foulée, sans aller chercher plus loin, sans recouper l'information, sans demander d'éléments contradictoires éventuellement à la Russie, monsieur lance des mandats d'arrêt. Voilà comment fonctionne la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'effondrer comme un rouage de l'OTAN et rien d'autre que ce qu'elle était depuis le début. Je rappelle que la Cour pénale internationale est une invention de Clinton, de Bill Clinton, au moment où il a cru, et avec lui toute la classe dirigeante des États-Unis, que les États-Unis étaient maîtres du monde et qu'ils pouvaient désormais faire ce qu'ils voulaient, n'importe où, librement, sans obstacle. Ils l'ont fait, hélas, sur le dos de la Yougoslavie. Ils ont ensuite continué, même quand Clinton n'était plus là, avec Obama pour les printemps arabes. Et puis maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc cette Cour pénale internationale se réduit à rien du tout. C'est-à-dire, c'est un espèce de jouet qui est entre les mains de l'OTAN.
Bernard,
qui est
en... oui. Et ils ont accusé Bachar al-Assad de crime. Il a utilisé, soi-disant,
pour les
produits
gaz,
chimiques.
Pour les gaz.
Et là, actuellement, il paraît qu'il est innocenté. Est-ce que... Je ne sais pas si...
Alors, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Ben, en gros, c'était donc une attaque au gaz qui avait eu lieu à Ghouta, donc dans la banlieue de Damas, en 2013.
Presque blanc, oui.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a eu ensuite... Donc, il y a un organisme... Parce qu'à la suite de cette attaque et de ces accusations, la Syrie a décidé de vendre, de détruire, de laisser détruire toutes ses armes chimiques. Elle en avait. Elle n'était pas le seul. Il y a beaucoup de pays ont des armes chimiques. Hein. Et donc, ces armes chimiques ont été emportées par les États-Unis et détruites par les États-Unis eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur la fiabilité de l'opération. Et à partir de ça, il n'y a plus d'armes chimiques en Syrie. Et donc, effectivement, l'organisation de contrôle des armes chimiques a envoyé des inspecteurs sur place, dont la conclusion était qu'effectivement, il y avait bien eu l'utilisation d'armes chimiques, mais ce n'était pas le gouvernement syrien qui en avait fait usage. C'était les terroristes islamiques. Bon. Alors, ça y est, alors, le comble, c'est qu'ils l'ont écrit, ils ont fait un rapport qui était tout à fait clair là-dessus, et le directeur général de cet organisme, qui est un ami des États-Unis, je mets ça entre deux guillemets, n'a pas rendu public leur rapport. Et donc, continue à dire, oh, si, si, le régime est certainement pour quelque chose. Hein. Ouais. Donc, on a aussi, alors, il y a aussi des organismes internationaux qui, dans ce monde couvert par les tentacules des services secrets des États-Unis, des organismes soi-disant indépendants et internationaux n'arrivent pas à avoir la parole libre parce qu'il y a des pressions de l'impérialisme sur leurs dirigeants. C'est la même chose sur l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il faut savoir que dans le cas de la fameuse centrale nucléaire ukrainienne de Zaporoïe, M. Grossi passe son temps à faire l'innocent en disant « Ah, qui peut bien tirer sur cette centrale nucléaire ?» Mais on le sait qui tire dessus, parce que les Russes sont dedans, c'est eux qui la maintiennent en état, et c'est les Ukrainiens qui tirent dessus, tout le monde le sait. Mais lui ne veut pas le dire, il ne veut pas le dire. C'est un fonctionnaire international qui est bien payé, qui est un expert. Et donc, il est sous menace des États-Unis. C'est ça qui est en train de casser. C'est en ça qu'il est important de dire que la CPI est devenue ridicule parce que c'est un outil des États-Unis et de l'OTAN. Voilà ce sur quoi je souhaitais conclure. On va finir par une petite musique cubaine pour montrer que les services de renseignement cubains ont déjoué la Xème tentative de déstabilisation de l'île et de son gouvernement. Merci, Roger.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, colores negros.